Bonjour à tous. Emmanuel Royon, je suis responsable de la bibliothèque de la SNHF. J'ai le plaisir d'animer cet après-midi les interventions. Alors, chose n'est pas coutume, je vais en fait laisser la parole une petite minute à Marie-Hélène Bentière, qui est chargée de mission Parc et Jardin au ministère de la Culture, puisqu'il va y avoir une revue in situ qui va sortir très prochainement et qui a trait à tous les sujets qu'on a évoqués depuis ce matin et que nous allons poursuivre cet après-midi.
Merci Emmanuel. Donc le prochain numéro de la revue in situ, revue des patrimoines, s'appelle Jardin collectif, sortira d'ici un mois, un petit mois. 18 contributions, dont celle de Jean-Noël Gonçalves et celle de Béatrice Cabedos, sur des sujets extrêmement différents, des jardins ouvriers aux jardins partagés, en passant par des jardins d'insertion, d'hôpital psychiatrique, de prison. Il y a une biblio assez conséquente, une brève sur les archives des parquets et jardins aux archives nationales, et puis beaucoup de références que vous trouverez. Donc c'est de Marseille à la Finlande, en passant par l'Allemagne et l'ouest de la France. Donc d'ici un petit mois sur In Situ, revue des patrimoines.
Merci beaucoup. Et puis par ailleurs, bien sûr, comme chaque année, les interventions sont enregistrées. Vous pourrez les retrouver sur le portail Hortalia, le portail que Smaël Boudia vous a présenté ce matin. Et il y aura des actes qui seront publiés l'année prochaine. Donc tout de suite, j'ai le plaisir de présenter Béatrice Cabedos, qui est donc chargée de recherche en histoire sociale et en ethnologie au Conseil départemental du Val-d'Oise. Outre un très bel ouvrage que vous avez dirigé avec, alors j'ai peur d'écorcher son nom, Philippe Pierson, voilà, Pierson, sur les 100 ans d'histoire de jardin ouvrier, vous avez fait une thèse donc, sur ces sujets-là, si je puis dire le titre, l'œuvre de la Ligue du coin de terre et du foyer, les jardins ouvriers du département de la Seine, 1896-1952. Voilà, vous présentez beaucoup de conférences sur ces sujets-là et donc on est ravis de vous accueillir. Et donc vous allez revenir pour nous, et il y a eu beaucoup de questions ce matin, sur l'histoire des jardins ouvriers et leur évolution au fil des temps.
Merci. Alors vous me direz si je ne parle pas assez fort. Merci de m'avoir proposé de venir ici. Je remercie aussi la Fédération nationale des jardins familiaux, puisque le PowerPoint que je vous présente va être pratiquement illustré par des photos, des documents qui proviennent de leur fonds d'archives. Alors, trois axes vont orienter mon intervention. Je vais évoquer l'invention du jardin ouvrier au croisement de la doctrine terrianiste, des valeurs portées par l'abbé Lumière et des expériences préalables. Dans un second temps, j'évoquerai l'émergence de ces jardins dans un espace en pleine mutation, la banlieue, et je prendrai l'exemple du département de la Seine. Et puis, j'évoquerai dans un troisième temps la mise en place de communautés, de jardiniers, mais pas que, communautés donc avec un fonctionnement original et atypique. Et en fait, je vais commencer par une citation de Yvonne Sarcey, qui était journaliste aux Annales politiques et littéraires et qui décrit ainsi les jardins au début du siècle. Ils sont grands comme des mouchoirs de poche. Ils s'enorgueillissent de deux ou trois arbres anémiques. Elle évoque aussi les dimanches de ces banlieusards qui, avec la bourgeoise et les deux ou trois gosses, savourent sous la tonnelle repeinte à neuf leur manger. Et on a bien planté le décor, la petite parcelle, petite parce qu'elle est en banlieue parisienne, avec la famille au jardin. Alors, si on veut évoquer l'invention du jardin ouvrier, alors j'ai choisi le terme invention, il peut être sujet à polémique et j'en reparlerai après, c'est parce que je voulais évoquer, bien sûr, l'abbé Lemire, hein, Jules Lemire, donc, qui est d'origine paysanne. Hein, il est né près d'Asbrook, à Vieux-Berquin. Il va être élu député en 1893 sur la base d'un programme terrianiste. Je reviendrai sur la question terrianiste. À la Chambre, il va se battre pour améliorer les conditions de vie des familles modestes. Il est à l'origine des retraites ouvrières, d'un ministère du Travail, des allocations familiales. Alors, avec d'autres, bien sûr, mais il a initié les premières réflexions sur ces sujets, la réduction du temps de travail pour les femmes et les enfants, et bien sûr, on parlera des jardins. C'est un traditionnaliste. En même temps, il siège à gauche à la Chambre. Et c'est toute l'ambiguïté et la richesse de ce personnage qui a été appelé à un moment la soutane la plus connue de France. Donc vous voyez l'aura et la notoriété dont il disposait et qu'il a mis entièrement au service des jardins. Et Clémenceau disait de lui, ce naïf et bon abbé Lemire, qui non content d'ouvrir aux hommes les portes du paradis, il est prêtre, veut absolument leur réserver d'abord d'appréciables joies sur la terre. Et parmi ces joies, eh bien, il y avait le petit jardin. En effet, une pensée domine sa vie, la terre pour la famille. Et c'est par le moyen de la parcelle potagère qu'il va réaliser ce projet. Alors, j'ai utilisé le terme inventé, mais en fait, l'abbé Lemire n'est pas un novateur. Il va reprendre une pratique qui est en vigueur depuis un certain temps déjà, c'est l'assistance par le travail de la terre. Hein. Depuis longtemps déjà, des communes, des notables mettent des parcelles de terre à disposition des familles les plus modestes. Hein. On a parlé de l'origine des jardins ouvriers, ça pourrait être les biens communaux qui, justement, vont être dévolus aux familles nécessiteuses. Alors, au XIXe siècle, il faut évoquer la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, au XIXe siècle, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est l'organisation catholique qui s'occupe de charité la plus importante. Et par le biais de ces conférences, les conférences, ce sont de petits groupes de jeunes et de moins jeunes qui travaillent en milieu rural, justement auprès des familles les plus modestes. Et ces conférences de Saint-Vincent-de-Paul ont l'idée de substituer les distributions de charbon, de pain qui se faisaient auparavant par l'octroi de parcelles de terre. Les sociétés de Saint-Vincent-de-Paul vont s'intéresser aux jardins ouvriers et jusque dans les années 1920, elles vont gérer encore un certain nombre de jardins ouvriers. Alors, à la fin du XIXe siècle, enfin le dernier tiers du XIXe siècle, on a deux groupes de pensées qui vont renouveler ce thème de la terre bienfaisante. Hein, on a évoqué ce matin, par le biais des articles de la Société nationale d'horticulture, l'aspect bienfaisant de la terre, apport matériel et intérêt moral. Donc, ça va être pris à la fin du XIXe siècle, d'abord par l'école de Frédéric Le Play. Frédéric Le Play est un économiste, un réformateur social, très traditionnel pour l'époque, qui préconise l'alliance du travail industriel et du travail domestique. Après son travail, eh bien, on peut s'activer près de chez soi et parmi les travaux domestiques, il pense au jardinage. Et puis, on a un autre mouvement de pensée très novateur à l'époque, c'est le mouvement terrianiste. Alors, le mouvement terrianiste naît dans le Nord, ce qui est important puisqu'on a vu que les jardins familiaux étaient très nombreux dans le Nord. Et il naît autour d'un personnage, le docteur Lancry. Le docteur Lancry est médecin à Dunkerque. Il se rend compte qu'autour de lui, dans les quartiers pauvres de Dunkerque, des familles nécessiteuses n'arrivent pas à s'en sortir. Il rencontre des pêcheurs, une petite communauté de pêcheurs à Fort-Mardic, juste à côté de Dunkerque. Alors là, on est dans l'histoire, dans la fresque un peu d'histoire des jardins ouvriers, avec quelques anecdotes qui sont évoquées souvent à l'époque, les anecdotes fondatrices, mais bien réelles, du mouvement des jardins. Ces pêcheurs de Fort-Mardic se sont vus remettre par Colbert des terrains. Et donc, ils se sont partagés les terrains, et en plus de la pêche, ou quand la pêche est trop mauvaise, en période de chômage, ils cultivent ces jardins. Et une parcelle est remise à tout nouveau couple, donc qui bénéficie d'une parcelle de terre. Alors, le docteur Lancry, lui, sa grande... On a à l'époque la revendication des 8 heures. Le docteur Lancry, lui, c'est 3 fois 8, 24 arts. Et 24 arts, selon lui, c'est la superficie qui permet à une famille de vivre de son jardin. Donc, il se déplace, il fait connaître son œuvre. Il rencontre, au début de l'année 1893, l'abbé Lemire. Ils vont devenir amis. Ils sont entourés par les abbés démocrates. Le thérianisme est au cœur, à l'époque, du catholicisme social. Et donc, l'abbé Lemire va mettre ce programme thérianiste, enfin, ce projet thérianiste, à son programme électoral. Et donc, il se présente en août 1893 à la députation, il est élu sur la base d'un programme thérianiste. Et dès lors, il bénéficie, comme je l'ai dit, d'une notoriété, d'une audience qui fait qu'il va pouvoir parler un peu partout des jardins ouvriers. Et ce qui est très intéressant quand on regarde les cahiers de l'abbé Lemire, parce que toute sa vie, l'abbé Lemire a tenu ses cahiers qui sont conservés à Hazebrouck, c'est de voir que parmi toutes ses activités politiques, tous ses déplacements, les jardins, c'est l'œuvre qui lui revient à cœur. Il s'était promis de ne pas aller quelque part, de ne pas prononcer un discours, même si c'était sur la question des retraites, par exemple, sans évoquer aussi ce qui lui tenait tellement à cœur, les jardins ouvriers. Et à l'époque, l'abbé Lemire reçoit... Alors, je ne devrais peut-être pas parler encore de jardin ouvrier, c'est le docteur Lancry qui a inventé le terme jardin ouvrier. Au même moment, l'abbé Lemire reçoit une petite brochure d'une œuvre qui s'est mise en place à Sedan, l'œuvre de la reconstitution de la famille, de même fait partie des premiers exemples mis quand on lance les jardins ouvriers. Et donc cette œuvre de reconstitution de la famille qui donne aussi des parcelles de terre, notamment aux jeunes couples qui organisent à côté école ménagère, cours de couture, enfin ce que la Ligue appellera après des œuvres annexes. Donc vous voyez ce foisonnement, à Saint-Étienne on a le père Volpette, donc un foisonnement d'idées autour de projets, autour de cette même idée de la petite parcelle de terre donc, que le docteur Lancry va dénommer jardin ouvrier. Et tous ces réformateurs sociaux, en fait, on prennent complètement conscience du développement du paupérisme ouvrier urbain et de la menace que ce paupérisme fait subir aux familles. Hein. Et donc, Félicie Hervieux avait appelé son œuvre celle de la reconstitution de la famille, et on est bien dans un esprit d'assistance. On est encore dans une forme de société d'assistance par le biais du travail de la terre. L'objectif, c'est de reconstituer matériellement et moralement la famille. Alors, dans ce programme thérianiste, il faut dire que le jardin ouvrier n'en constitue qu'une première étape. Hein, on a très vite oublié qu'il y ait... En fait, à l'époque, quand l'abbé Lemire et le docteur Lancry mettent en place ces premiers groupes de jardins, notamment dans le Nord, leur objectif, c'est de permettre à la famille de faire des économies. Par le biais de ces économies, elle pourra se rendre propriétaire du petit terrain qu'elle occupe et y construire leur maison. Donc l'objectif, c'est la maison. Je renvoie aussi à ce projet du bien de famille qui aboutira à un projet de loi mais qui sera un semi-échec. Voilà. Enfin, l'objectif, c'est quand même de rendre l'ouvrier propriétaire de sa maison. Le jardin gratuit, avait dit le docteur Lancry, hein, le jardin qui permet de rapporter des légumes mais aussi faire des économies et donc pouvoir acquérir sa maison. Alors on voit combien ce projet est utopique et très vite les promoteurs des jardins ouvriers se rendront compte que ça n'est pas possible et ça se réalisera bien après par les pouvoirs publics et notamment par le biais de la loi Loucheur, mais il faudra attendre la fin des années 20. Donc, ces petits jardins donc, se développent. Alors, on a évoqué ce matin l'apport matériel de ces jardins, l'aspect aussi moral, hein, sauvegarde, moralisation de la famille, le jardinage dérivatif au travail à service en usine, qui va compenser les effets du taudis. C'est un réservoir de bon air qui permet de combattre l'anémie, le rachitisme, la tuberculose, et certains médecins ont écrit à l'époque des brochures hein, sur le jardin qui permet de prévenir et même de guérir la tuberculose. Et puis le cabaret, on a déjà parlé du cabaret, parce que le cabaret, on boit, mais on y refait le monde aussi ce qui peut aboutir à des projets dangereux. Alors, je voudrais dire qu'un certain nombre de sociétés de tempérance ont créé des jardins ouvriers, hein, sociétés de tempérance donc, qui visaient à lutter contre l'alcoolisme et qui ont créé des œuvres de jardins ouvriers. Et puis, bien sûr, surtout permettre l'épanouissement, la reconstitution de la famille. Alors, on a dit que la Ligue du Quinter était paternaliste. Il y avait un aspect paternaliste, mais si on se replace dans le contexte de l'époque, elle est beaucoup moins paternaliste que bien des œuvres, hein, qui se limitent à moraliser l'ouvrier et à lui permettre de subsister matériellement. Là, on l'a dit ce matin, il y a un vrai désir de laisser l'ouvrier et la famille libres au jardin. Et je vous ai mis ces deux dessins que je trouve particulièrement intéressants parce que sur les deux, on y voit la famille. Quand on regarde le dessin qui est plus bas, il a été réalisé pour le trentenaire de la Ligue et on a vraiment les symboles. On aperçoit la tonnelle sur le dessin du haut. Bon, l'ouvrier a un calot puisqu'on est peu de temps après la guerre. On a surtout les enfants, la femme. L'objectif de la Bellemire et de ses associés, ce sera de réussir à faire venir les femmes et les enfants au jardin, ce qui n'était pas gagné. On aperçoit, vous voyez en bas, à l'arrière, la ruche. Alors, ça peut paraître anecdotique. La Ligue explique qu'à l'époque, eh bien, mettre des ruches dans un jardin, c'est important parce que ça produit du miel. Et puis que l'abeille est un bon exemple pour l'ouvrier, hein, l'abeille travailleuse infatigable. Alors, juste quelques photos sur les jardins industriels qui sont extraits, ces photos, d'un très bel album sur justement les activités de la Société des Mines de Laon que j'avais consulté à l'époque au Musée des Arts et Traditions Populaires. Je ne sais pas aujourd'hui où il est passé, cet album. Alors, la Bellemire et la Ligue se sont intéressés aux jardins industriels. Les patrons qui promouvaient ces jardins étaient invités au congrès organisé par la Ligue, mais la Bellemire a voulu que ce soit quelque chose de différent. Lui voulait faire des jardins ouvriers. Alors, même si le terme ouvrier est un peu sujet à caution, voilà. Pour lui, ça n'était pas des jardins patronales. Hein. La dangerosité du jardin patronal étant liée au fait que ce jardin, bien sûr, est associé au travail et que si l'ouvrier perd son travail, il perd le jardin, il perd la maison qui parfois va sur le jardin. Vous voyez là l'enseignement culinaire qui était dispensé donc par la Société des Mines de Laon. Alors, il y a eu des cours de cuisine dans quelques groupes de jardins, les plus dynamiques, à Sceaux, je pense, peut-être aussi à Ivry, parce qu'il était important d'associer les femmes et filles de jardiniers, notamment pour qu'elles sachent apprêter ce qui était cultivé dans les jardins. Et puis, une photo des jardins ouvrier de Charlottenbourg, dans la banlieue, où s'est mis en place très très tôt, à la fin du 19e siècle, un groupe de jardins aussi. Alors il y a une polémique à l'époque, qui a créé les premiers groupes de jardins, est-ce en France, est-ce en Allemagne, on ne sait pas trop. Le docteur Schreber, dans les années 1860, un médecin pédagogue, avait déjà aussi évoqué ce principe des jardins. Peu importe, les relations étaient bonnes entre la Bellemire et les groupes allemands qui sont venus assister au congrès de la Ligue du Quinter. Et puis une carte, alors elle est peut-être difficilement lisible, j'en suis désolée, des groupes de jardins en 1905. Donc vous voyez que dans le Nord, effectivement, on a du mal à les localiser. Hein. Alors pourquoi le Nord ? Je pense que c'est lié à l'action de la Bellemire. Hein. Le Nord est le fief de la démocratie chrétienne qui suit la Bellemire. Et la Bellemire étant maire d'Asbourg, jouissant d'une certaine notoriété, eh bien, les premiers groupes se mettent en place là-bas, avec quand même le groupe important du Père Volpette à Saint-Étienne et les groupes de Félicier Vieux à Sedan. Et puis, eh bien, et on va aborder le second temps de cette présentation, ces groupes émergent dans Paris même et dans sa petite couronne. Un peu plus tardivement que dans le Nord, parce que Paris commence à s'urbaniser, la petite couronne également. Alors, dans un premier temps, l'urbanisation de la petite couronne est relativement favorable à l'implantation des jardins. Cette urbanisation, elle repousse les maraîchers professionnels en grande couronne, on a des espaces interstitiels, on a des réserves foncières, et donc les groupes de jardins vont pouvoir s'y installer, mais de manière très, très précaire, bien évidemment. Avec au départ quand même quelques groupes dans Paris même, vous voyez là le groupe de la rue Vergniaud dans le 13e arrondissement, on aura des groupes dans le 16e arrondissement, ça correspond aux arrondissements de la périphérie, hein, ces nouveaux arrondissements qui ont été annexés par Haussmann en 1860 et qui ne sont donc pas encore complètement lotis. Et puis très vite, des groupes dans le sud, dans le nord, notamment dans le nord, dans les communes les plus industrielles et les plus pauvres, hein, avec des grands groupes à Ivry, Sceaux, Pantin, Aubervilliers, donc au plus près des usines et des logements ouvriers. Et puis, une extension des jardins en moyenne couronne et jusqu'aux franges de l'Île-de-France. Et l'abbé Lemire explique dans ses cahiers le mal qu'ils ont pour trouver des espaces disponibles pour aménager des jardins. Lui-même y allait. Il explique « Vous n'avez pas l'idée de ce que nous utilisons. Tous les coins les plus abandonnés, le rebut, la misère, ce dont personne n'a l'air de vouloir, même sans bail et sans sécurité pour le lendemain, avec 6 mois de jouissance devant nous, nous risquons la culture et cela nous porte bonheur d'avoir toutes les audaces, car 9 fois sur 10, nous réussissons. » Alors, s'ils réussissent, ça peut être très compliqué. Là, vous voyez en haut, à Ivry. À Ivry, le groupe de jardins, alors il y a eu 2 groupes de jardins au départ, l'un près du fort et l'un près de l'hospice d'Ivry. Et les jardins de l'hospice ont été aménagés sur le terrain d'anciennes carrières. Et les ouvriers jardiniers ont dû faire sauter à la dynamite des blocs de pierre avant de pouvoir aménager des parcelles. En bas, on a l'exemple du boulevard Brune. Donc là, on est dans le 14e, hein, tout près des fortifications qui entourent la capitale. Et là, c'est pareil, le responsable du groupe a fait aménager quelques planches d'un côté, amener de la bonne terre et puis cultiver quelques radis pour avoir très vite une récolte, parce que le reste a été très très long à aménager pour des jardiniers qui n'étaient pas tous férus en horticulture. C'est souvent à côté des usines, donc dans des lieux où il n'y a pas forcément de bonne terre, que les jardins ont été aménagés. Et puis la Ligue du coin de terre va bénéficier de l'espace qui entoure les forts, les fortifications de la capitale et donc la zone. Donc, on est ici là au fort de Montrouge et je reviens donc sur cette carte où vous apercevez en bleu l'emplacement de forts autour desquels ont été aménagés des jardins. Avec, c'est pareil, des terrains stériles, pentus, broussailleux et avec énormément de travail pour nos ouvriers jardiniers. Vous voyez les photos, donc ces terrains aménagés dans les creux, dans les fossés et sur les glacis. Alors, au fur et à mesure, la Ligue va devoir abandonner ses terrains. Les abords des forts sont lotis, la zone également, les fortifications disparaissent. Et donc, on a, au cours des années 20, une diminution de ces groupes de jardins. Il en reste toujours aujourd'hui, le long des forts de Saint-Denis, d'Ivry, quelques beaux sites qui ont pu perdurer, mais la plupart des terrains ont disparu. Alors, l'abbé Lemire était content parce que, effectivement, tous ces jardins qui entouraient quasiment la capitale formaient vraiment cette ceinture verte autour de Paris dont avaient rêvé les hygiénistes, hein, ceinture verte qui ne pourra pas malheureusement se maintenir très, très longtemps. Alors, on a 2 grands groupes, hein, 900 jardins dans les années 1920-1930 à Saint-Denis, et puis 10 jardins dans la rue Vergniaud, quelques jardins dans le 16e, donc des groupes très différents, de par leur structure, de par leur organisation également. J'ai parlé de communauté de jardiniers un petit peu originale, un petit peu atypique. Alors, avant de parler des jardiniers, Je vais évoquer les notables, hein, puisqu'on est vraiment au départ dans un fonctionnement qui est celui des sociétés de bienfaisance, c'est-à-dire qu'on a des notables qui encadrent, qui n'ont pas de parcelles. L'abbé Lemire avait été jusqu'à recruter sa gouvernante, puisqu'il manquait de cadres, pour encadrer un groupe de jardins à proximité de Paris. Donc on a ces notables, et puis on a les familles de jardiniers qui, elles, sont les bénéficiaires de ces jardins. Alors ces notables, qui sont-ils? On a parlé ce matin du clergé. C'est vrai qu'au départ, les prêtres sont nombreux. Hein. L'abbé Lemire, bien évidemment, va recruter dans ses relations, dans ses réseaux. Je vous ai parlé des abbés démocrates, du thérianisme qui est au cœur des projets du catholicisme social. Donc beaucoup d'œuvres de jardin, au départ, sont des œuvres de fondations paroissiales dirigées par des prêtres. Et alors, petit problème, dont on n'imagine pas la portée aujourd'hui, une œuvre qui est dirigée par un prêtre, est-ce que ce prêtre va autoriser les jardiniers à venir dans les jardins le dimanche? Est-ce que le jardinage est un travail ou un loisir? La question a été beaucoup posée dans les années 1900-1910. Alors, avec en pendant l'espèce d'épouvantail du cabaret. Si on n'autorise pas les jardiniers à venir jardiner le dimanche, ils iront au cabaret. Si on les y autorise, ils feront tout leur travail le dimanche et donc ils iront au cabaret le reste de la semaine. Enfin, la question est insoluble dans tous les cas. Alors, en fait, le problème des prêtres va se résoudre, si je puis dire, et la Ligue du Coin de Terre va se détacher du monde clérical dans la mesure où l'abbé Lemire, qui prend des positions assez à gauche pour un prêtre, il est favorable à la séparation de l'Église et de l'État, l'abbé Lemire va être frappé d'interdit par le Vatican. C'est quand même une sanction gravissime. Il ne peut plus célébrer la messe. Et donc, un certain nombre de prêtres, les plus rigides peut-être, hein, vont le laisser tomber. Hein. Quand on parle de l'abbé Lemire à Hazebrouck, c'est encore un sujet un peu sensible, hein, et on ne s'imagine pas toutes ces polémiques qu'il y a eu autour de ce prêtre qui voulait moraliser les familles mais qui les faisait jardiner le dimanche, ce prêtre qui était à la fois conservateur mais qui siégeait à gauche à la chambre. Il y a eu beaucoup aussi de réflexions autour de ces jardiniers dont je vais vous parler maintenant. Qui étaient les jardiniers qui allaient venir dans les jardins? On a parlé de la liberté, la grande liberté qui était laissée aux jardiniers. Imaginez-vous qu'une œuvre de jardin qui s'installe sur la zone non edificandi qui entoure la capitale, la zone qui est peuplée de petites bicoques, de chiffonniers, d'apaches. Les apaches, ce sont les mauvais garçons à l'époque. On s'inquiète, qui va venir dans ces jardins? Est-ce que ça ne va pas être des apaches? Est-ce qu'ils ne vont pas boire et discuter politique dans les tonnelles? L'abbé Lemire inquiète tout le monde. Il inquiète la droite, il inquiète la gauche. Hein, il est assis dans une position très inconfortable, entre deux chaises, si je puis dire. Il a besoin du soutien des notables, puisque ce sont les notables qui encadrent les groupes, ce sont les notables qui financent l'œuvre. Hein. Au départ, il y a très peu de cotisations dans les jardins. En général, au départ, les jardins sont remis gratuitement. La cotisation ne vient qu'un peu après, dans la mesure où on sent que les familles ont les moyens de payer. Donc, il faut avoir en tête tout cet aspect-là. Alors, il n'y a pas eu que des prêtres dans les jardins. Hein. On a eu des sillonistes. Alors, les sillonistes, hein, les jeunes qui font partie du sillon, qui suivent donc Marc Sangnier, le sillon est remis aussi en question. Donc, ça pose aussi problème. Hein, ces groupes de jeunes catholiques qui veulent, comme Léon XIII le leur a enseigné, aller vers le peuple, au plus près du peuple, ce qui ne se faisait pas beaucoup auparavant, et surtout laisser ce peuple libre dans son jardin, le laisser s'épanouir dans son jardin. On a les membres des conférences de Saint-Vincent-de-Paul qui, après laisse aussi s'éloigner un peu de la Ligue. Et puis on a des notables. On parlait ce matin, par exemple, du groupe de Sceaux. On a M. Renaudin à Sceaux, qui a les moyens de financer ce groupe. Lui-même, d'ailleurs, va avoir les moyens de construire des maisons dans ce groupe de jardins. Et le concours, le prix du concours de jardinage, c'est une maison. Hein. Alors, comme je vous l'ai dit, l'abbé Lemire n'avait pas réussi à rendre les jardiniers propriétaires de leur maison, mais dans quelques groupes, notamment à Sceaux, à Saint-Étienne aussi, il y a eu des maisons dans les jardins, donc des notables. On a eu pendant très longtemps aussi un couple de notables, monsieur et madame Marc, à Ivry, donc des gens qui se donnent sans compter pour les jardins, qui sont toujours allés visiter les jardiniers et organiser beaucoup d'activités à côté de ces activités de jardinage, tout ça pour créer des lieux de sociabilité dans les jardins. Alors, les jardiniers, bah les voici, hein, vous les voyez au travers de photos. Alors là, ils posent, ils ont mis peut-être leurs vêtements du dimanche. Au départ, ce sont des ouvriers, ce qui explique le terme jardin ouvrier. En général, ils travaillent dans les usines les plus proches du groupe de jardins, donc que ce soit à Saint-Denis. À Versailles, on va avoir pas mal de jardiniers qui travaillent dans pour des jardins ou des maisons bourgeoises et qui, à côté, obtiennent un petit lopin de terre. Et puis, on ne connaît pas trop la vie de ces jardiniers. Hein. À l'époque, ce sont les seules sources, ce sont les documents de la Ligue, le bulletin de la Ligue du coin de terre, qui ne parle pas beaucoup de jardiniers, sauf pour évoquer les remerciements de ces jardiniers qui écrivent en remerciant justement l'association de leur avoir donné un jardin, d'avoir permis la guérison de leur fille, de les avoir sortis de leur taudis. Donc on a tout cet aspect-là des choses. On n'a pas effectivement l'autre aspect. On peut supposer que ces jardiniers étaient heureux d'avoir des jardins, puisque très vite, eh bien, comme aujourd'hui, on a des listes d'attente pour obtenir des jardins. Sachant que l'abbé Lemire n'a jamais exigé de certificat de baptême, il se moquait complètement des convictions religieuses, et politique de ces jardiniers à partir du moment où ceux-ci n'en faisaient pas état dans les jardins. Il y a eu un groupe à côté de Marseille où ils ont essayé de demander des certificats de baptême et très vite la Ligue du coin de terre a mis le holà en disant que ça n'était pas possible. Par la suite, à partir des années 30, on va assister à une diversification des catégories socio-professionnelles de ces jardiniers. On va voir arriver des petits employés du commerce, de l'industrie, pas mal de fonctionnaires aussi. Alors, rappelons qu'il y a un règlement, rappelons qu'il y a une cotisation, ce n'est pas une location. Ni aujourd'hui, mais ni autrefois aussi, ça n'était une location. On est dans une association, la Ligue se constitue en association très vite, elle est reconnue d'utilité publique peu de temps après, donc c'est une cotisation qui en général est demandée au bout de 2-3 ans quand le jardin commence à rapporter, et puis à partir de l'entre-deux-guerres, les jardiniers vont être associés au bureau et à la gestion des groupes, d'abord par le biais de délégués. Alors, je vous ai parlé de communautés atypiques parce que je pense que le fonctionnement de ces jardins est un fonctionnement un peu atypique dans la mesure où on est dans un système original de propriété. Quand la Ligue en a la propriété, ou la Société des Jardins Ouvriers en a la propriété, mais plutôt dans un système de location collective de l'ensemble des jardins, mais avec une jouissance individuelle des parcelles. Et je trouve que la richesse de ces groupes, c'est ce mélange d'individualisme, si on veut, et de sociabilité. Hein, chaque jardinier vient quand il le veut, il cultive ce qu'il veut à partir du moment où il cultive la parcelle, il a ou pas une tonnelle dont on va reparler, et puis dès qu'on ouvre la porte, on a les voisins à côté, beaucoup d'échanges, des lieux de sociabilité qui se mettent en place, des activités communes qui se mettent en place, et l'abbé Lemire jugeait qu'un groupe de jardin ne fonctionnait bien qu'à partir du moment où il y avait des tonnelles, vous les voyez, ces petites tonnelles, et qu'à partir du moment où il y avait des œuvres annexes, alors on va voir ce que c'est que ces œuvres annexes, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans un lieu de jardinage avec un rapport de matériel, de fruits et de légumes. Hein. Il y a des activités qui sont proposées pour prolonger l'action bienfaisante du jardin. Alors, d'abord, le lieu, c'est la tonnelle. Alors, la tonnelle, c'est un élément symbolique pour les cadres de l'association. Vous voyez comme certaines sont belles, d'autres l'étaient beaucoup moins hein, parce que les jardiniers les construisaient avec des matériaux de récupération. Ils étaient parfois sur des sites, ne sachant pas s'ils allaient pouvoir y rester longtemps ou si la structure allait être expropriée, surtout en petite couronne. Donc on fait ça avec ce qu'on a sous la main. Et la question de l'esthétisme des tonnelles, elle pose problème depuis les années 1900-1910. La tonnelle, c'est surtout un lieu symbolique. Hein. C'est le symbole de la maison, c'est le lieu de rassemblement de la famille, c'est le symbole aussi de la maison de campagne que ne pourra jamais se procurer l'ouvrier. L'illusion, un peu, mais un lieu bien réel. Et l'objectif, eh bien, c'est que la famille, et donc la femme et les enfants, y viennent le plus possible et que ça ne soit pas qu'un lieu de stockage d'outils ou de récolte. Et puis à côté des tonnelles, eh bien, on a eu des œuvres peut-être plus proches des œuvres traditionnelles de bienfaisance. Dans un certain groupe, on a des sociétés de secours mutuels, des écoles ménagères. On a eu quelques groupes qui ont donné naissance à des sociétés spéciales de crédit avec quelques maisons. Hein, je vous ai parlé de Sceaux, mais il y en a eu aussi à Pantin, Versailles. On a les corvées communes hein, qui réunissent les jardiniers pour mettre en place l'adduction d'eau, les clôtures, refaire les allées, organiser des terrains pentus. On a les concours de jardinage, qui sont précédés en général de cours. On a Jules Curé, le secrétaire du syndicat des maraîchers qui va à Ivry, qui va à Sceaux, donner des cours de jardinage parce que on peut avoir des familles installées depuis peu en banlieue, qui venaient de province et qui ont gardé des traditions de jardinage. Mais on a beaucoup aussi de familles qui fuient Paris. Hein, quand la famille s'agrandit, le loyer devient cher si on veut aussi agrandir un petit peu la maison où l'on habite. Et donc on vient s'installer en banlieue et là, il n'y a pas de tradition forcément de jardinage. Donc toute l'aide technique qui peut être apportée aux jardiniers est particulièrement importante. Et puis on a le summum, si je puis dire, ce sont les fêtes de jardin. Alors il n'y en a pas eu dans beaucoup de groupes, mais quelques groupes, notamment les groupes d'Arcueil, du Kremlin-Bicêtre, d'Ivry. Ivry était un peu le groupe modèle de la Ligue. Il y a eu des fêtes. Alors l'intérêt de ces fêtes, c'est de peut-être de rassurer hein, les élus locaux, les notables. À Ivry, le maire qui est violemment anticlérical, hein, Gustave Mesureur, vient quand même rencontrer l'abbé Lemire et participer un petit peu à la fête de jardin. Ces fêtes, eh bien, on invite le commandant du fort lorsqu'on est à proximité d'un fort. Il y a des visiteurs prestigieux. Vous voyez ici au centre, avec sa petite barbiche, le président Poincaré. Il n'est pas venu spécialement pour les jardins. Il était en visite officielle à Ivry, mais il a fait un détour hein, par les jardins. Et vous voyez en face de lui l'abbé Lemire, qui évidemment lui fait l'honneur des jardins. Ces jardins qui ont été auparavant arrangé, décoré par les jardiniers. C'est aussi, il y a une chercheuse, Florence Weber de l'INRA, qui a bien insisté sur cette question d'honneur des jardiniers. Redonner de l'honneur à ces jardiniers qui, ce jour-là, peuvent montrer qu'ils sont des gens bien, qu'ils ont un beau jardin, ils peuvent offrir un bouquet de fleurs, et en général, l'abbé Lemire et ses collaborateurs repartaient avec des fleurs, voire des légumes. Hein. Quand on va dans les jardins, et moi je l'ai observé quand j'y suis allée aussi, on repart rarement sans quelque chose. Donc cette fierté, c'est la notion de don contre don. Hein. En anthropologie, je vous remets un jardin et vous aurez la fierté de me donner à votre tour quelque chose pour me remercier, mais pour aussi me montrer que vous en êtes digne. Et cette fierté est très importante. Alors, petite anecdote amusante, mais représentative aussi, lors de la fête d'Ivry, les bébés nouveau-nés sont montrés par les mères dans l'année. Donc les mères viennent présenter leur bébé, parer aussi ce jour-là, ce qui renvoie à nouveau à la notion de famille. Alors il y a eu des films tournés dans les jardins dans les années 1910, 1913, 1920, notamment Ivry, au Kremlin-Bicêtre. Et on peut voir à Alina ces films de quelques minutes sur les jardins. Et puis, bon, il y a toutes les manifestations informelles. Hein. On se retrouve, on se rencontre entre jardiniers, sous la tonnelle, en dehors. Ce sont des lieux vraiment de sociabilité. Alors moi, j'aime bien la photo de droite hein, autour de la question du cabaret. On voit quand même que le petit garçon a une bouteille à la main. Donc je pense qu'il y avait quand même des bouteilles qui se débouchaient sous la tonnelle. Tout n'était pas parfait dans les jardins. Hein. À Versailles, le directeur se plaint parce que les ouvriers jardiniers ont rouvert dans le fond du groupe une petite porte parce qu'il y a un cabaret juste à côté et qu'on peut ainsi y aller discrètement. À droite, vous voyez que ce jardinier a aménagé une balançoire pour ses enfants. L'objectif étant, comme je l'ai dit, de faire venir ses enfants. Donc vous voyez toutes ces photos qui évoquent cette... merci. Cette sociabilité des jardins. Alors, très rapidement, l'évolution, puisque je pense que le grand intérêt de la Ligue, c'est qu'elle a su s'adapter aussi à l'évolution. Évolution conjoncturelle et évolution sociétale. Alors là, je vais revenir un petit peu sur les questions de ravitaillement hein, lors des deux guerres. Il y a aussi la question des loisirs. Hein, en 1919, avec la loi des 8 heures, puis en 1936, avec les congés payés et puis la semaine anglaise. La semaine anglaise, ça veut dire que l'ouvrier dispose, enfin le salarié dispose du samedi après-midi et du dimanche. Donc on revient à la question des loisirs des travailleurs. Et à l'époque, cette question des loisirs des travailleurs est un véritable enjeu pour les associations d'éducation populaire et bien sûr pour la Ligue du coin de terre. Il faut occuper l'ouvrier avec toujours la peur du cabaret et il faut lui trouver des loisirs sains. Hein. Et parmi les loisirs malsains, eh bien, il y a une nouvelle distraction contre laquelle certains fulminent, pas forcément à la Ligue d'ailleurs, c'est le cinéma. Hein. Cinéma, on est enfermé, on peut aller voir des films qui ne sont pas de bons films, au jardin au moins, on est en plein air, on est en famille et on produit des légumes sains. Voilà. Et puis bien sûr, les questions économiques à certaines périodes, alors première guerre, deuxième guerre, et puis début des années 30 aussi, durant la crise de 29, où à nouveau, la question de l'intérêt matériel du jardin revient sur le devant de la scène. Alors juste un mot des jardins durant la Seconde Guerre, et sinon ben, je vous renvoie à l'article que j'ai fait dans la revue In Situ. La Ligue considérait de son devoir comme de contribuer au ravitaillement des populations. Et pour ce faire, elle a travaillé avec le Secours National, elle a notamment mis en place et géré des centres de conserverie familiale, elle a fait la promotion des jardins, et elle a distribué une subvention, elle était chargée par le gouvernement de distribuer une subvention pour tout nouveau jardin mis en culture, avec trois types de jardins. Les jardins ouvriers donc associatifs, qui existaient déjà, hein, les jardins de la Ligue, les jardins industriels et les jardins familiaux. On voit apparaître le terme jardin familial, c'est-à-dire les jardins qui sont créés par des particuliers qui veulent eh bien, s'assurer un ravitaillement en fruits et légumes au quotidien et qui donc vont profiter de cette subvention pour créer leur jardin et qui vont être après regroupés, bien sûr, hein, ils ne sont pas complètement isolés, ils sont regroupés et donc la Ligue travaille activement à encadrer tous ces gens. Voilà. Alors la Ligue est à l'époque dirigée par Francisque Gay. Donc je ne sais pas si le nom de Francisque Gay vous dit quelque chose. Francisque Gay, c'est le cofondateur des éditions Blue des Gays, catholique social et animateur d'un réseau de résistance. Donc, il va utiliser certains groupes de jardins et on peut supposer aussi certains cadres des jardins pour rentrer ou animer son réseau de résistance. Voilà, donc ceci pour faire la part des choses entre la participation de la Ligue aux activités du Secours National et l'activité de Francis Queguet qui n'a pas touché, bien évidemment, l'ensemble de la Ligue. C'était une petite part, mais il faut le souligner. La Ligue aussi qui a dû arrêter d'éditer le bulletin qu'elle éditait, le Jardin ouvrier de France à destination des jardiniers, parce qu'elle refusait d'insérer la propagande allemande. Alors, juste après, je pense que j'ai peut-être dépassé mon temps, la reconstruction, les Trente Glorieuses, une période difficile, l'urbanisme, on juge aussi peut-être ce type d'aide paternaliste, la question d'esthétique des cabanes, la société de consommation, on pense qu'on va trouver tous les légumes dans les nouveaux supermarchés qui se mettent en place, et le renouveau donc des jardins. Et je termine par quelques groupes emblématiques du Val d'Oise, puisque je connais un peu ceux du Val d'Oise. Donc j'ai mis les Jardins du Cheminot, puisque les Jardins du Cheminot ont un grand groupe à Éragny-Saint-Ouen-l'Aumône. J'ai mis deux groupes en Ville-Louvel, puisque très vite, au milieu des années 70, des jardins sont implantés dans la Ville-Louvel de Cergy-Pontoise. Et puis je vous ai mis à droite ceux de Sarcelles, Sarcelles, donc ville stigmatisée s'il en est, mais qui a depuis longtemps un groupe de jardins. J'aurais pu aussi mettre ceux de Villiers-le-Bel ou de Gonesse. Voilà. Je vous remercie de votre attention.